et boum,
les détricoteuses.
Elle m'évoque des sons soit imaginaires, soit qui existent pour de vrai.
Et c'est vrai, on est dans les détricoteuses.
Un espace ouvert et en évolution que je parcours.
Et nous allons écouter maintenant une création radiophonique.
C'est une parure que je porte, non pas pour me cacher, mais justement pour me révéler.
Et que c'est passible d'1 an de prison et de 15 000 euros d'amende.
Comme si elle parlait trop, alors que le temps moyen de discours d'une femme se situe entre 3 et 10 secondes.
Je me dis, mais c'est trop con de pas pouvoir le faire, juste parce que t'as des seins. Moi, je m'en fous de mes seins, quoi.
Non pas que votre avis soit pas intéressant, non, non. Il raconte plein de choses, votre avis.
Les Détricoteuses.
Une émission menstruelle
et participative.
Tous les premiers et troisièmes vendredis du mois.
À 19h sur JetFM 91.2.
C'est un attentat radiophonique.
Bonsoir, bonsoir à toutes et à tous et bienvenue. C'est l'heure des détricoteuses sur JetFM, votre rendez-vous préféré de création sonore féministe. On en est sûr. On décortique donc chaque mois un mot du quotidien avec des contributrices invitées. Et ce soir, nous avons Émilie, Domitille et Solène.
Salut.
Et Salima.
Bonjour.
En différé. Depuis chez elle, voilà. Depuis chez elle en Bretagne. Tu
salut,
nous entends?
Oui, vous m'entendez?
Oui, salut Salima.
Oui, salut.
Ce soir, donc le mot du quotidien est CDI. CDI est un de ces acronymes qui est devenu un nom commun et qui évoque tout de suite le travail. Un peu comme le mot TAF, qui pourrait être tout à fait un acronyme. Travail à faire, par exemple, mais qui en fait viendrait, on va dire, vu l'état de mes sources un peu floues, du XVIIe siècle de l'onomatopée tif-taf, évoquant le bruit de, à votre avis,
tif-taf.
Tif-taf.
La locomotive écrire. Qui existait vachement au XVIIe siècle.
La machine
pas.
À écrire. Non
ah.
L'imprimante. 3D.
Non. Ça aurait pu avoir un lien aussi direct.
L'IA, je pense que c'est le bruit de l'IA.
Non, c'est le bruit des fesses qui s'entrechoquent sous l'effet de la peur. Non mais, alors,
qu'on prenne le son.
C'est complètement logique, puisqu'après, au 19e siècle, le mot taf est un mot d'argot qui signifie juste la peur. Et ensuite, le sens a glissé jusqu'à aujourd'hui et est devenu juste le synonyme du mot travail. Donc si on ajoute à ça l'origine latine du mot travail, tripalium, torture, on se dit que vraiment, vraiment, le travail part pas gagnant dans notre imaginaire collectif. Et pourtant, il y a toujours eu un peu l'espoir ou l'illusion qu'on allait s'épanouir par le travail. Toujours eu un peu ce doux rêve. D'ailleurs, ça faisait partie des revendications féministes des années 70. Les femmes allaient se libérer et s'inscrire pleinement dans la sphère publique à travers le travail salarié. C'était pas idiot comme idée, mais dans les faits, ce qui s'est passé, c'est que le gâteau a pas été partagé en parts vraiment égales. Un pour toi, une moitié pour ta sœur. Certes, les femmes ont afflué sur le marché et ont acquis une certaine indépendance, mais le CDI, qui est la norme de l'emploi en France, c'est sa définition, concerne 90% des salariés en... Ah oui, qui concerne 90% des salariés en 2015, c'est pas la norme pour toutes en fait. Donc attention, le gros chiffre, parmi les 4 millions d'actifs à temps partiel, 82% sont des femmes. Donc effectivement, là en lisant, oui, il y a des CDI à temps partiel, des CDI à temps plein. En fait, c'est juste pour dire que dans les chiffres, il y a des disparités. Est-ce que je vous dis l'autre chiffre qui est un peu compliqué Non. On a
Valentine,
compris,
oulala.
On a compris. Non mais si, en fait le truc c'est que le temps partiel représente 29,8% des emplois occupés par des femmes contre 5,4% pour les hommes. Voilà, bon, c'est compréhensible, c'est pas compliqué. C'est juste
non, non,
pas,
c'est
ça
parlant,
fait pas 100%. Non mais voilà, et donc on le sait, ça s'explique par la dose de travail domestique qui retombe encore principalement sur les femmes. Mais aussi sur le fait que les emplois les plus féminisés sont souvent les plus précaires. Avec notre trio gagnant, j'ai nommé le social, la santé, l'enseignement, qui sont plus un domaine féminisé et plus précaire. Maintenant qu'on a dit ça, on n'a rien dit, parce que le CDI, ce soir, on va voir que c'est aussi un refuge au collège avec une gentille dame. Qui attend
la dame du CDI, on est pas sans ça.
Oui. Le CDI, c'est aussi un horizon angoissant qui fait flipper la génération Z. Bon, ça, c'est une petite spéciale dédicace aux gens qui rentrent sur le marché du travail et qui n'ont pas du tout envie d'un CDI. Mais c'est aussi, ça peut être aussi des citoyennes déterminées et indépendantes qui défient les stats. Moi, je préfère parler de ces CDI-là. Et on va commencer par en écouter une, Salima, qui nous a envoyé sa création depuis l'Ille-et-Vilaine, notre correspondante bretonne. Et ça s'intitule « Et alors la Hongrie ?»
CDI. Contrat à durée indéterminée. Indéterminée pour qui ? Pour l'employeur ou pour le salarié ? Moi, j'imagine souvent que le CDI protège plus le salarié et le CDD protège plus l'employeur. C'est une question assez administrative, la question des contrats. Elle est super importante, mais elle m'effraie. J'ai demandé à mon amie Anna, en Hongrie, de me dire comment ça se passe là-bas.
Hey, mon ami. Je suis dans la rue, du coup j'espère que l'enregistrement va marcher bien. J'ai réfléchi par rapport au sujet concernant le travail à durée long terme dans mon pays, donc en Hongrie. Ce que je peux te dire, même si je ne connais pas les statistiques, mais dans mon entourage, c'est dans la plupart des cas, ce sont des CDI. Moi, j'étais presque toujours embauchée en tant qu'employée avec un contrat durée indéterminée en Hongrie. En France, c'était des CDD. En Hongrie, le chômage, tu le touches pendant... Si tu perds ton travail, tu le touches pendant 3 mois. Et c'est... genre 500 euros par mois. Donc, bon, moi, je préfère les contrats de durée indéterminée à cause de sécurité. Et ce que je voulais te dire, raconter qu'il y a quand même des possibilités de... pour payer, quoi, par exemple, l'impôt autrement. Et c'est mon cas aussi, ou c'était mon cas. Donc, quand je suis retournée à la structure où je travaille actuellement, ils m'ont proposé déjà un contrat de CDI et ils m'ont demandé si j'ai envie de cotiser autrement parce qu'il y a une possibilité, c'est une possibilité qui s'appelle ECHO et qui touche principalement les gens qui travaillent dans le milieu créatif. Et bah, cela veut dire qu'avec l'ECHO, bah, tu cotises moins et tu touches plus, bien sûr. Mais par contre, il y a un impact, bien sûr, sur ton retraite et sur l'indemnisation que tu reçois après un enfant, après la naissance d'un enfant. C'est super important en Hongrie d'avoir un CDI ou un contrat fixe avant... un contrat fixe si tu veux avoir un enfant. Parce que chez nous, on peut rester à la maison avec l'enfant pendant 3 ans. Ce qui veut dire que pendant les 6 premiers mois, tu touches le 100% de ton salaire. Jusqu'à l'âge de 2 ans de ton enfant, tu touches, après le 6 mois, tu touches le 70% de ton salaire. Entre l'âge de 2-3 ans de ton enfant, ça laisse tomber. Tu touches genre 100 euros par mois. Du coup, en général, les femmes retournent au boulot après 2 ans. Je pense à une autre chose aussi qui arrive malheureusement souvent, assez souvent, et qui est arrivée avec un ami à moi. Ça arrive dans une entreprise ou structure asso où il n'y a pas assez d'argent, il essaye de jouer avec ça, qu'il ne déclare. Je ne sais pas si ça existe en France. Où ça est répandu en France, mais quand l'employeur déclare un employé pour un salaire minimum, genre, ça veut dire que la personne ne cotise pas beaucoup, mais son salaire net est complété avec de l'argent, le cash, dans une enveloppe. Et comme ça, il a la personne touche au total un salaire. Mm. OK? Mais c'est un peu black. Après, si tu poses la même question en France, c'est fort possible qu'un certain nombre de gens vont te répondre qu'ils préfèrent le CDD. Quand je suis allée en France, et j'ai, dans un premier temps, j'ai regardé les annonces. Et moi, j'ai regardé surtout dans la structure, dans le milieu, pardon, culturel. J'étais étonnée à quel point ils n'ont pas proposé de CDI. Ça, c'est sûr. Et dans, à cette époque-là, je ne trouvais pas ça cool. CDD de 6 mois, bah, merci beaucoup. Et après 6 mois, du coup... et je me souviens qu'il y avait des types de contrats que je ne connaissais même pas. Bon, je me suis renseignée et j'ai appris ce que ça veut dire. Mais tu sais que c'est contrat d'intermittent ou bien... Je ne me souviens plus le nom, mais les contrats qui sont proposés pour les jeunes, pour les débutants, ou un truc comme ça. J'imagine que c'est insupportable d'écouter.
Alors moi, mon parcours professionnel, au départ des stages, non rémunérés, puis rémunérés, 360 euros par mois pendant 6 mois, je me sentais un peu Crésus à la fac. Ensuite, j'avais signé un CDD pour faire des sandwichs le matin à la fac. Ensuite, j'avais signé des CDD l'été pour travailler. J'ai même cru un été avoir signé un contrat et finalement, quand je me suis inscrite à Pôle emploi, j'ai eu la douloureuse réalité de savoir que, en fait, je n'avais pas été déclarée. Et puis, j'ai fait des stages non rémunérés, vive le secteur culturel. Et ensuite, comme le dit Anna, mon premier contrat à la fin de mes études, c'était un service civique. Payé, il me semble, à l'époque, 620 euros par mois, je crois. Pendant 10 mois, je complétais ce service civique avec des heures au marché. Ensuite, on m'a proposé de faire de l'intermittence, qui s'est très vite avérée être de la permittence. Au bout de plusieurs années, j'ai demandé à être en CDI dans cette association. Aujourd'hui, je suis auto-entrepreneuse. J'ai plusieurs métiers.
Hello, Salima, bonjour.
Hello,
oh. Coucou, vous merci. Ouais, on t'entend super bien. On vient d'entendre ta création. Merci beaucoup de nous avoir envoyé ça. Alors toi, tout de suite, le mot CDI, ça t'a donné envie d'aller faire une enquête européenne sur les contrats de travail. Est-ce que tu peux nous raconter à qui est-ce que tu es allé poser cette question et qu'est-ce que tu as posé comme question d'ailleurs? Qu'est-ce que tu as demandé?
En fait, ça fourmillait dans ma tête sans avoir vraiment une idée de ce qui allait se dégager. Parce que je suis tout le temps remise en cause de ce que c'est que ce travail. Et quand j'ai commencé à travailler, j'ai trouvé ça tellement fou, le travail, que encore aujourd'hui, je n'arrive pas trop à comprendre ce que c'est. Et du coup, ça me plaisait d'aller en parler avec Anna en Hongrie. Et j'ai demandé aussi à une amie italienne, Delphine, de bien vouloir répondre à cette question de « c'est quoi un CDI pour toi ?» est-ce que c'est un Eldorado ou est-ce que c'est une horreur à imaginer? Et est-ce que dans ton pays, globalement, c'est quelque chose qui se pratique? Moi, je serais incapable de répondre à cette question en France et je trouve ça toujours chouette de poser la question à d'autres. Et du coup, c'était assez intéressant aussi la réponse de Delphine parce que je trouve que ça ressemble plutôt un peu au profil français, à savoir qu'elle avait fonctionnaire. Et en Italie, être en CDI avec l'État, c'est vraiment le summum. Tout le monde cherche ça. C'est vraiment très, très difficile d'avoir un CDI en tant que fonctionnaire. Et du coup, elle a été pendant 10 ans précaire, des contrats de 6 mois, 1 an, tout ça. Et elle a toujours pensé que le CDI, ça changerait tout. Que ce serait vraiment waouh, trop bien, ça y est, j'ai un CDI, je suis sûre, tatata. Et... au départ, ça lui a fait ça, parce que ça lui a apporté une reconnaissance dans son travail et ça lui a permis d'acheter une maison. Et en fait, après, elle s'est rendue compte que en fait, ça changeait pas grand-chose, à part ça, pour elle personnellement. Parce que, hormis le fait que personne ne peut te virer, donc ce qui fait que par exemple elle a un collègue médecin qui apprend la guitare sur son temps de travail. Oh. Et eh bien en fait là elle se sent ouais, elle se sent vraiment enfermée en fait dans un système qui souvent marche pas très bien aussi quoi. Elle travaille sur la réadaptation en gros d'enfants avec autisme. Elle accompagne les parents et les enfants en classe et dans leur quotidien. Et en fait, elle avait postulé pour un doctorat, pour faire des recherches plus approfondies, pour être mieux avec les familles, avec les enfants. Et en fait, ils lui ont refusé. Et en fait, elle a l'impression, là, de stagner. En fait, elle se dit, waouh, en fait, avec ce CDI, en fait, je suis coincée. Et en plus, en Italie, ça, c'est quand même un truc, en France, on n'a pas ça et c'est une chance. Si elle voulait changer de métier, en fait, il faudrait qu'elle arrête son métier, donc elle ne toucherait pas de chômage, et qu'elle fasse une formation, qu'elle paye. Et donc, c'est un engagement qui est énorme quand tu veux te réorienter ou voilà, aller sur autre chose. Mmh. Là où je trouve qu'en France, avec le système des formations, ça marche quand même plutôt bien. Souvent, tu peux trouver des financements, des arrangements avec ton boulot. Voilà, au bout d'un moment, ils n'ont plus trop le choix. Mmh. Et ça, ça m'a quand même pas mal questionnée parce que nous, on n'est pas... en fait, si on décide d'aller vers un parcours, on sait que bifurquer, c'est quand même un peu possible. Mmh. Donc, moi, je sais que la question du CDI, j'ai bien vu que mes amis, la majorité, n'ont jamais voulu signer de CDI. Pour eux, ça faisait vraiment comme dit Delphine, un truc d'enfermement terrible. Moi, je voyais au contraire la possibilité de se syndiquer, la possibilité d'être mieux garantie. Parce que souvent, quand tu es salarié, bah, en fait, tu as vachement plus de droits quand tu es en CDI que quand tu es en CDD. Et en fait, aujourd'hui, j'ai un peu fait exploser tout ce truc-là en étant auto-entrepreneuse, en étant... moi-même tout à fait précaire, mais par contre je choisis mon mode de vie comme là il m'entend aujourd'hui, mais je peux pas m'empêcher de penser à chaque fois, ah là là, s'il m'arrive un truc, un accident ou quoi, j'ai rien comme couverture. Si par exemple quand l'État là au début de l'année voulait stagner le maximum du chiffre d'affaires à 26 000 euros, ah ben là ça bouscule carrément tout. En fait, ça reste précaire aussi parce que l'État le décide. Et moi, ce qui me pose question, dans surtout ce qu'a dit Delphine par rapport à ce que le CDI lui a permis, à savoir acheter une maison, en fait, j'ai l'impression que c'est des contrats qu'imagine l'État pour aussi un peu tenir un peu les gens qui sont... en fait, tenir les citoyens dans un format qui existe. Et si tu n'as pas ce truc-là, tu ne peux pas accéder à ça, ça, ça. Ça fait un peu passeport, je trouve. Bon, c'est un peu fouillis là, tout ce que je viens de dire, mais voilà.
Ah non, c'est hyper clair, tout le monde hoche de la tête autour du plateau, mais tu n'es pas là pour le voir.
Et en même temps, y a quand même l'idée aussi de créer un système qui fait que tu as des revenus à la retraite, une solidarité, enfin... Je me fais l'avocat du diable, mais du coup,
avec auto-entrepreneuse.
Mais non, c'est avec le CDI.
Pas tant avec le CDI, mais avec le CDD, t'étais.
Oui, c'était par rapport à la question de.
Du salariat plutôt,
De l'auto-entreprise et, et des contrats précaires. Mais parce que toi, tu nous as déroulé ton parcours, ton CV. Et c'est rigolo parce que du coup, on voit que c'est un peu l'étoile au sommet du sapin que t'attends jamais, le CDI, mais finalement, t'as choisi. Tu as choisi l'auto-entrepreneuriat parce que même niveau formation et tout, c'est plus compliqué après.
Pas forcément parce que là, je suis encore inscrite à Pôle emploi. Comme ça, je me dis que si à un moment, je veux faire une autre formation, c'est vachement plus simple d'être inscrite depuis un petit paquet d'années. Et puis du coup, en étant entrepreneuse, je peux continuer à me former. Il y a vachement de formations avec la Chambre des métiers d'artisanat. Et du coup, ça me permet quand même de faire des choses comme ça. Mmh. Et après, mon activité principale, elle est auto-entrepreneuse, mais en fait, je fais aussi des extras pour un café-librairie à côté de la maison. Et en fait, j'ai d'autres activités à côté qui font que, en fait, j'ai plein de contrats différents. J'ai deux URSSAF différents, j'ai ce contrat en extra. J'ai aussi des ateliers en tant qu'artiste avec... une association. En fait, j'ai plein de contrats différents. Je redoute le moment des impôts.
Ah oui.
Mais ouais.
C'est une grosse charge mentale aussi, ça, quand même.
Pour moi, c'est une... De quoi ?
C'est une grosse charge mentale, quand même, de devoir jongler aussi et de devoir calculer entre ces différents statuts.
Ouais. Après, j'aime bien parce que parce que je crois que j'aime bien faire des plannings, sinon tu ne fais pas ça. Et puis après, ce que j'aime bien, c'est que du coup, je suis entrepreneuse, je suis maçonne, et en fait, les activités sont très différentes, et en fait, ça me fait un équilibre qui est assez cool. J'aimerais pas être que maçonne, j'aimerais pas être que en cuisine, enfin, disons tout ce qu'on fait bien. Donc, en ce moment, ça marche carrément. Et quand ça marche, je suis trop contente, je me dis, ah, c'est merveilleux. Et j'essaye de taire la petite voix qui me dit, ah, s'il se passe quelque chose. Je me dis que j'arriverai à me débrouiller, mais bon, c'est sûr que, voilà. Mais en même temps, le CDI, moi, je ressentais ça aussi. C'est juste, à un moment aussi, quand tu es dans une boîte et qu'il y a trop de trucs qui dysfonctionnent dans ton fonctionnement, tu sais très bien que tu ne peux pas la changer. Soit tu essayes de te modeler et du coup, tu commences à sentir que le rond qui est en train de se transformer en triangle, il commence à te faire mal à la tête. Donc, c'est bien aussi d'en partir plutôt que de se faire mal, quoi. Je sais pas.
Et alors j'entends des enfants derrière toi, je ne sais pas si ce sont tes enfants, mais je me pose la question par rapport à justement ce statut d'auto-entreprise. Tout à l'heure, il y avait la question justement du congé mater qui était abordé par ton amie hongroise. Ouais. Et je me pose la question de qu'est-ce que ça change quand on est à son compte, justement, ces questions de famille. Alors certes, on peut concilier son temps de travail avec son temps familial, mais ça doit, j'imagine, changer des choses en termes de droit.
Alors, en termes de droit, j'en ai aucune idée parce que, évidemment, moi, je suis maligne. Quand je suis tombée enceinte, j'étais en CDI.
Oh là là, coming out!
Tu rentres dans les cases que l'État demande.
Ah non, non, mais moi, je voulais absolument avoir un CDI pour tomber enceinte et pour acheter une maison.
Ok, ok. Parce que
les papiers, c'est ça. J'ai une énorme angoisse des papiers. Donc, en plus, je savais qu'intermittente, tu gagnais que dalle. Enfin, c'est plus le cas aujourd'hui, mais à l'époque, tu gagnais que dalle après avoir été. Donc là, je voyais le truc horrible, quoi. Tu bosses dans une boîte, t'es en intermittence, après t'as un salaire de merde. Enfin, je trouvais que c'était vraiment incorrect. Donc j'ai tout fait en 2 ans. Et après, imaginons si là j'avais un autre projet d'avoir un autre enfant. Je sais que par exemple là, je me dirais, ok, je vais faire plein de chantiers qui rapportent, et après ça me permettrait d'avoir 1000 balles par mois le temps de. Enfin voilà, je m'arrangerai comme ça, quoi, avec mon compagnon, on ferait un truc, je sais pas, mais je m'arrangerai comme ça. Je me verrais pas avoir un CDI pour avoir un enfant. Ah non, là, j'arriverai pas à ça.
Tu ferais une excellente conseillère Pôle emploi.
Alors, c'est drôle parce qu'il y a pas longtemps, j'ai été missionnée par le collège privé de là où j'habite pour parler aux gamins en 4e et 3e de l'orientation. Alors évidemment, personne ne voulait être maçon ou maçonne. Mais du coup, on a beaucoup parlé de vraiment faites ce qui vous fait kiffer, sinon vous allez être vraiment malheureux. Essayez de voir les endroits où vous êtes bien, là, dans votre quotidien. Est-ce que vous préférez être avec les amis, dans la nature? Est-ce que vous aimez bien fabriquer des choses? Perdez jamais de vue ça, parce que sinon, vous allez switcher. Et c'était hyper drôle. Avec les gamins, là, on a bien rigolé. Bon, apparemment, j'ai eu des bons retours, donc je pense que c'était pas trop le truc de « oui, alors pour faire ça, il faut faire ça, 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 ça », parce que ça, en plus, j'y crois pas, c'est des, c'est des carrières qui n'existent plus, j'ai l'impression. Mais bon, après, peut-être que je me trompe, mais...
T'es spécialiste de la remise en question du travail, remise en cause.
Ah oui, carrément. Ouais, parce que je trouve qu'il y a beaucoup de choses... Il y a beaucoup de choses très... Maya, je suis au téléphone, s'il te plaît.
Non, j'ai vidéo après, on va te voir.
Ouais.
Oui, pardon.
À propos de remise en cause du travail, on va creuser la question avec Emily.
Avec Milou Enfin, je t'appelle Milou ou Emily?
Oui, comme tu veux.
Tu veux. Merci Salima, parce que tu vas devoir nous quitter.
Merci Salima.
Merci.
Du coup, merci beaucoup à toi. Et on ne désespère pas que tu viennes un jour dans les studios de Jet.
Mais oui.
Un jour,
notre fidèle contributrice.
Des gros bisous, bonne émission.
Bisous, ciao.
Salut.
Ciao. Alors Milou, en parlant de remise en question du travail, t'as des choses à nous dire, non? Est-ce que tu veux introduire ton sujet avant qu'on l'écoute ou pas?
Vite fait, bah, ça résonne beaucoup avec ce qu'a dit Salima, parce qu'effectivement, moi, le CDI, c'était pas... J'en ai eu pendant ma vie étudiante, et après j'ai enchaîné beaucoup de CDD, j'avais une difficulté avec l'engagement et voilà, l'ancrage dans un lieu. Et du coup, mon dernier CDI date de 2021, c'est un peu mal fini avec notre sujet là, qui en traite un petit peu, mais ça a été aussi l'occasion d'acheter une maison et de faire des bébés. Donc voilà. Mais on va plutôt parler de la fin du CDI.
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 travail, bonjour.
Bienvenue. J'ai foiré. 39 j'ai foiré.
Le service téléphonique dédié aux demandeurs d'emploi. Des données relatives
j'ai
à
foiré.
Votre appel, notamment votre
j'ai
numéro
foiré.
De téléphone,
CDI.
Dernier service
CDI.
Contacté,
CDI.
Sont enregistrés
CDI.
Par travail pour gagner du temps lors
CDI.
De votre prochain appel. Composez maintenant les deux chiffres de votre département. Attention.
La passoire qui boue. Ouverture boîte mail. Diaphragme collé.
En cas de crise d'hyperventilation, la technique du sac est une des plus connues pour retrouver son calme.
Le taux de prévalence de la souffrance psychique liée au travail est deux fois plus important chez les femmes. Tranche d'âge de 35-45 ans. Surreprésentation des femmes avec jeunes enfants, surreprésentation de familles monoparentales.
Symptômes spécifiques chez les femmes, troubles cognitifs, attention, concentration, mémoire, fatigabilité à l'effort, atteinte au niveau de la fonction respiratoire, notamment des essoufflements, l'expression d'un vécu dur, échec, impuissance.
Portrait robot de la burn-outée. Syndrome de la bonne élève. La valorisation de ce qu'elle est passe par le faire. Endurante et résistante. Rigoureuse, voire perfectionniste. Personne motivée, compétente et consciencieuse. Top. 6 mois d'arrêt.
Aujourd'hui, en France, le burn-out n'est presque jamais considéré comme une maladie professionnelle. Les arrêts maladie liés au burn-out sont donc indemnisés comme une maladie classique par la caisse primaire d'assurance maladie. Si le burn-out était reconnu comme une maladie professionnelle, son indemnisation serait prise en charge par la branche accident du travail, maladie professionnelle, financé par les cotisations patronales. Cela donnerait lieu à des montants plus importants pour le malade, mais les partenaires sociaux n'arrivent pas à se mettre d'accord.
Sortir du lit. Sortir du lit. Mon mec m'offre une tronçonneuse. On coupe du bois. Amour de soi à moins 1000. Peur de la précarité.
On ne peut pas se sortir d'un burn-out sans accompagnement.
Psy, 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 dodo, dodo.
Il est nécessaire d'être accompagné par son médecin traitant.
Psy, 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 dodo. Psy.
Le burn-out n'est pas un état dont vous devez avoir honte. Ça ne joue pas sur notre, sur notre qualité, sur notre capacité, sur nos compétences. C'est juste qu'à un moment donné, il y a quelque chose qui a lâché.
J'y retourne, mais pas comme avant. Test. Essai. Changement. Intermittente. Contrat entre 6 et 12 heures. Super bien déterminé. CDI. C'est fini.
Merci Milou, vous êtes toujours dans les détricoteuses et ce soir on détricote le thème CDI qui pour l'instant a été pris sous le prisme du travail, on verra pour la suite. Mais du coup, Milou, est-ce que tu veux nous déjà dire un petit mot sur ce récit autobiographique ? Donc en l'occurrence c'est sur ton dernier contrat qui date de 2021.
Ouais.
Moi j'ai une question justement sur... Tout à l'heure, je parlais de coming out, mais il y a quand même ce truc aussi de se rendre compte à quel moment tu te rends compte que tu es en burn-out. Tu vois, comment tu te l'avoues à toi-même ? Parce que souvent, il est trop tard, en fait, quand tu t'en rends compte.
C'est ça. Le truc, c'est que j'ai la chance d'avoir un super médecin. Et c'est vraiment lui qui m'a... Enfin, je suis allée le voir parce que ça n'allait pas trop. Enfin, je ne me sentais pas bien. En vrai, ça faisait un an que ça allait mal, que je le disais là où je travaillais, qu'on ne me proposait pas de pistes pour que ça s'améliore. Et lui, il m'a dit, mais je pense que vous faites un burn-out. Et il m'a tout de suite, enfin très vite, donné les caractéristiques des profils en fait, qui font des burn-out. Ce qui, pour moi, m'a vachement aidée, parce qu'accompagné de ça, tu as un truc de dévalorisation de toi et d'échec ultime très fort. Et en fait, c'est avec le recul, 4 ans après, je me dis, c'est presque bizarre l'état dans lequel j'étais de désespoir total, lié au travail, à la perte de sens du travail, etc., quoi. Et donc voilà, je suis contente d'être rétablie, mais c'était pas une étape. Enfin, je vois des vidéos un peu de développement personnel, genre le burn-out, c'était le meilleur truc de ma vie, grâce à ça j'ai rebondi et tout. Voilà, moi je suis pas dans ce délire-là. Mais s'il y a des trucs comme ça, grave, de coachs qui te disent le burn-out, c'est une super occasion pour rebondir.
Tu m'étonnes, c'est comme ça qu'ils gagnent leur vie, tu sais, ils vendent des formations derrière.
Oui. Et te dire après, tu as vu, tu as réussi à dépasser ça, tu es une meilleure.
Ouais, c'est ça. En fait, c'est vraiment un truc trash. Et en fait, j'ai un certain nombre de connaissances qui sont passées par là, qui sont toutes des meufs. Et du coup, j'ai un peu fouiné pour l'émission. C'était pas forcément le sujet que je voulais faire au fur et à mesure, mais finalement, c'est celui qui s'est imposé. Et en fait, du coup, j'ai appris que c'était un truc hyper genré, en vrai. Et à la base, c'est même un terme qui a été inventé pour les métiers du soin et du social. Tu le disais, Marianne, dans l'édito. Ben voilà, c'est clairement beaucoup de meufs qui font ça. Et donc, voilà. Et c'est aussi lié à la manière dont on est, je pense, sociabilisé, les compétences qu'on développe de manière informelle par rapport à où on nous met dans le monde et tout, qui fait que, voilà, des fois on pète des petits câbles. Hein.
Et je ne sais pas s'ils ont déjà théorisé justement les questions des minorités de genre qui, du coup, eux, portent une charge, eux et elles, portent une charge mentale autre qui est liée au travail et à leur identité de genre, souvent, qui n'est pas valorisée dans le travail. Et enfin, ça me fait penser parce que quand on parle de meufs, là, on parle de meufs cis. Et ouais, souvent, on parle de meufs cis qui, a priori, ont des enfants. En tout cas, toi, tu... Enfin, pas toujours. Mais ce que je veux dire, c'est que toi, dans ton sujet, tu abordes cette question-là de la famille et de... la place, en tout cas, peut-être que ton burn-out a influé sur ta manière de voir ta famille. Peut-être que ta famille a aussi influé sur ton burn-out. Enfin, je ne sais pas si tu veux en parler.
Dans les stats, tu vois, ils disent que dans les divers facteurs, il y a notamment le fait que les meufs ont globalement, quand tu es dans un couple hétéro avec des gamins, tu as la charge perso, enfin le travail domestique en plus, non reconnu, non valorisé, non payé, blablabla. Donc, tu as une charge mentale de ouf. Et donc, voilà, bim, ça vient ajouter au truc. Moi, dans mon cas, c'était un peu le cas, mais pas tellement. C'est aussi parce que c'est une période où j'ai par ailleurs détricoté des trucs personnels. Il y a de l'inceste, etc., dans des générations d'avant. Donc, il y a eu, effectivement, et ils expliquent bien que c'est multifactoriel. C'est pas que le travail. Il y a des trucs qui débloquent complètement au travail. Moi, en l'occurrence, j'étais à 80%. Et j'avais 130% à faire en 80%. Avec un fonctionnement de la structure qui était complètement déconnant. Enfin, où il y avait du coup une perte de sens très, très forte. Et en plus, ce truc de la charge personnelle, en effet, qui vient rajouter quelque chose, quoi. Et ils disent aussi que c'est lié à une perte de sens par rapport au fait que tu es, en tant que meuf, souvent moins bien payée, moins bien reconnue, moins bien valorisée, que tu prends soin des autres et que ça, c'est pas valorisé ni symboliquement, ni dans ton salaire. Et moi, j'avais pas non plus un salaire de ouf par rapport à ce que je faisais, quoi. Donc voilà, il y a un cumul de plein de trucs qui fait que...
Et au-delà de la prise de conscience et d'aller chez le psy, qu'est-ce qui t'a fait du bien ? À un moment, tu parles de couper du bois,
ouais,
parce qu'il y a d'autres trucs.
Ouais. Bah ouais, alors j'ai la chance d'être accompagnée, d'avoir choisi comme compagnon quelqu'un avec qui on s'entend plutôt très bien et qui a enduré quand même un certain nombre de mois où j'ai traîné en jogging en chialant. Et en essayant de gérer quand même le minimum pour que mes enfants ne soient pas traumatisés, a priori, ils ne le sont pas.
Et morts de faim.
Voilà, c'est ça, ils ne le sont pas de cette période, mais vraiment, j'étais à une capacité productif très faible. Et à un moment, voilà, il m'a offert une tronçonneuse, il m'a offert un pantalon de sécu et il m'a dit, viens, on y va. Et ça m'a fait beaucoup de bien. J'ai écouté beaucoup de métal aussi à ce moment-là.
Tu veux dire que le cliché de la meuf qui fait un jogging, qui crie dans la forêt et qui écoute du métal pour se libérer de ses traumatismes est presque réel?
Je crois
ça,
pas.
Ça, toujours dans les séries, quand j'appelle ouais. un câble.
Là, il y avait aussi le fait qu'on y allait en collectif, quoi. Mmh. On était un groupe mixte et qu'il y avait des moments où on le faisait en non-mixité pour, voilà, pour l'appréhension des savoir-faire techniques, parce que manier une tronçonneuse, c'est pas non plus... voilà. Mais d'être dehors, d'être dans le corps, d'être capable de faire quelque chose avec des gens qui sont soutenants et tout. C'était hyper, hyper bien.
Du coup, vous aviez un projet bois particulier?
Non, bah nous, on a un poêle. Enfin, on chauffe oui, notre voilà. maison avec un poêle à bois. Et donc, on fait notre bois.
Bah, non, mais c'est un projet.
Et donc, voilà. C'est être écono en énergie, enfin, en dépense énergétique. Donc, on dépense avec notre énergie corporelle. Mmh. Voilà.
Mais tu parlais d'être peu productive. Et en fait, ça te remet dans quelque chose de concret, de productif, dans un temps très resserré. Contrairement au travail où tu peux te diluer.
Mmh. Ouais, c'est vrai. C'est vrai, j'avais pas pensé à ça.
Ben merci Milou pour ce témoignage. Et Julie a quelque chose à dire.
Ouais, juste parce que on a déjà fini la conversation, ça va trop vite. Ouais, mais tu peux peut-être juste nous faire un petit peu de com, parce que tu fais aussi de la radio par ailleurs, enfin des documentaires par ailleurs.
Oui.
Est-ce que tu veux faire un petit peu de com?
Ah bah si tu veux.
Pour les nombreux auditeurs auditrices qui nous écoutent.
Bah déjà je voulais vous remercier les tricoteuses, parce qu'en fait c'est grâce à vous.
Oh non.
Mais c'est vrai. Vous êtes venus à Châteaubriant. Je sais plus en quelle année. Juste avant le
en 2020.
Ouais, en mars 2020.
La veille du.
Voilà.
Before mars 2020.
Voilà. Ouais. Juste à temps. Oulala. Heureusement que je vous ai rencontré cette année-là et pas l'année d'après. Mais ouais. Et du coup bah voilà, vous m'avez initié à faire du son un peu. Et aujourd'hui j'ai la chance de co-réaliser une série qui est diffusée sur le média Blast. Qui s'appelle Manuel des Terres et qui documente des parcours de meufs dans le milieu agricole et rural avec des problématiques, je vais dire des gros mots, intersectionnelles. En tout cas, féministes, comment on fait quand on n'est pas hétéro, comment on fait quand on n'est pas blanche, comment on fait quand on n'a pas de thunes, comment on fait machin. Et avec des idées de partager des pistes et tout. Voilà. Et la grande nouvelle quand même, c'est qu'on va faire une saison 2.
Oui,
c'est ça depuis quelques jours, donc c'est trop bien.
Trop bien. Donc, voilà. Et donc, on peut tout écouter sur le site de Blast.
Ouais, ou sur n'importe quelle plateforme d'écoute en vrai.
Manuel des Terres.
Manuel des Terres.
Avec le prochain épisode qui sort.
Qui sort ce dimanche.
Ah,
avril,
voilà.
Notre épisode 4. On sort un épisode tous les deux mois. Parce que voilà. Qui la productivité a été remise en question et la charge de travail dans la vie aussi.
Super. Qui s'appelle comment? Enfin, quelle thématique?
On va parler de meufs qui s'installent justement en couple hétéro et qui après se séparent et qui se retrouvent dans des trucs de précarité bien tout pourris parce qu'elles n'avaient pas des bons statuts.
Ah. Encore une histoire de contrat.
Ouais, en fait, on va traiter un peu violence économique et du coup, comment on fait pour essayer de s'en prémunir, parce qu'il semble que ça revienne en masse dans les projets néo-ruraux avec des nouvelles installations, des projets de vie, etc. Et où en fait, la précarité des femmes en milieu agricole réaugmente alors qu'elle était en régression.
Cool, voilà. Super, et ben
un sujet inépuisable
à tout le monde. Et on fait une petite
non mais
super,
on perd
le travail,
justement
super
pour
ce travail
pour sortir du caca.
Sortir du caca, on parlera de cacophonie tout à l'heure.
Putain.
Un deuil. Vous ne savez pas pourquoi, mais on vous en
mais
dira
avant,
plus après.
Une petite pause musicale avec Marie Cloque et Boulet Bill que nous a proposé Salima.
Trop bien.
Elles sont longues, longues, longues les journées, tellement longues. Je traîne pieds nus entre la chambre et la cuisine. Les choses à faire, je vais les faire, mais pas tout de suite. J'ai la léthargie au corps et le moral qui dégouline. 16 heures déjà, c'est quoi l'estime de soi? Accomplir quelque chose avant de me démaquiller. J'ai même plus de quoi bouffer, ni me torcher le cul. Pour me sentir exister, je vais au supermarché. Attends, tu sais pas que je vais chez Monop, juste pour avoir une raison de mettre du rouge à lèvres et d'enfiler enfin un slip propre. Dehors pimpante, dedans la fièvre. We'll be right back.
comme ça, ça. Comme ça, c'est deux retraités. Et le responsable du rayon laitage se demanderont sur mon passage. Mais qui est cette femme à l'étrange aura qui n'achète rien d'autre que du PQ et une boule de mozzarella à l'heure où les gens normaux sont encore au bureau. Attends. Le matin, tu ne sais pas que je suis d'humeur suicidaire et que je lis des livres pour enfants jusqu'à midi en écoutant France Culture sans le souffle. Si je suis dans une bonne journée, je prends la voix d'Yves Morouzi jusqu'à 14h. Puis je fais la vaisselle, même s'il n'y en a pas. Après, j'alterne mes siestes entre le canapé et le lit. Je fais des allers-retours, quoi. Avec, parfois, un boulet bill à la main. Boulet bill que je n'ouvre même pas, mais qui me rassure. 16h, il fait enfin nuit. Sauvé. La mauvaise conscience se couche avec le soleil. Quelques mensonges bien troussés me permettront de tenir jusqu'au sommeil.
Vous êtes toujours dans les détricoteuses sur Jet FM 91.2 et aujourd'hui c'est le mot CDI qu'on détricote et là c'est à ton tour, pardon, Domitille, de nous présenter ton sujet qui là offre une autre interprétation du mot CDI puisque le CDI c'est aussi le centre d'information et de documentation.
Ouais, c'est ça.
C'est ça, et toi c'est par ce prisme là que tu as décidé de participer aujourd'hui. On l'écoute ?
Yes.
Allez, c'est parti.
En France, on aime bien les acronymes. On les intègre dans notre vie quotidienne, dès notre plus jeune âge, sans bien savoir d'ailleurs ce que ça veut dire. SNCF, FNAC, CPE, CDI. Et quand on a 11 ans, CDI, ça veut dire Centre de Documentation et d'Information. Quand je suis arrivée au collège, le CDI, c'était mon refuge. Être un télo tout en ayant des mauvaises notes, c'était pas le bon combo pour être populaire. Surtout pour la petite fille timide que j'étais. Le CDI, bah, j'y allais dès que je pouvais. C'était le seul endroit qui me semblait être à l'abri des moqueries et des complots de la sixième. Il y avait deux chemins pour aller au CDI. Le premier passait par derrière, en partant de la salle de cours de français de Madame Chenal. Il fallait traverser une sorte de patio, je poussais ensuite les portes battantes et le CDI était la première entrée sur la gauche. Le deuxième chemin faisait traverser tout le couloir de l'administration, avec les bureaux des surveillants en premier sur la droite.
C'est quoi ce troupeau ? Tenez-vous correctement !
Puis celui du CPE.
Bon, Domitil, je veux que tu racontes ce que tu as vu.
Puis le secrétariat en face.
Allô, oui, collège machin, bonjour. Ah, monsieur Tribard, enfin, vous rappelez ? Faut que vous reveniez à nouveau au collège, le chauffage ne fonctionne plus, encore.
Et juste avant, le proviseur.
Ici, on respecte l'ordre et l'autorité. Et on ne court pas dans les couloirs!
Ce passage était très impressionnant, donc je préférais passer par derrière. Mais cela impliquait d'autres rencontres tout aussi périlleuses.
Ah, Domitil, elle est teubée!
Ah, Le CDI, c'était l'endroit où personne ne pouvait venir m'embêter, car la vie y était très réglementée. La norme au CDI, c'était le silence. Tout était feutré, moquetté, ouaté. L'endroit idéal, donc, pour se réfugier dans les mondes imaginaires. 20 minutes de récré, ça fait donc 20 minutes de Narnia, l'armoire magique, la couronne d'argent, Moby Dick, au bonheur des ogres, à la croisée des mondes, le Seigneur des Anneaux, Harry Potter. 20 minutes, en fait, c'est court. Et le CDI fermait toujours à midi pour ne rouvrir qu'à 14h.
Non, ça c'est vraiment nul.
La dame du CDI était une dame brune, aux yeux noirs et à l'aura ténébreuse. On aurait dit qu'elle détenait les clés d'un monde ancien et secret. Fallait pas déconner avec la dame du CDI.
Chut, au fond là, s'il vous plaît.
Elle s'est jamais fâchée avec moi. D'ailleurs, j'aimais tellement aller au CDI que quand il a fallu faire un stage de troisième, je me suis tournée vers la bibliothèque municipale, qui est comme un CDI, mais en plus grand. J'ai découvert, bien plus tard, que quand on travaille dans un CDI, ça s'appelle...
professeur documentaliste au lycée machin.
Comme ma cousine. J'ai aussi appris que prof doc, c'est un métier aujourd'hui qui est essentiel avec l'apprentissage de la recherche de l'information.
Je gère le CDI de l'établissement, donc ça ressemble tout à fait à une bibliothèque. Mon métier consiste également à faire des séances pédagogiques dans un champ disciplinaire qui s'appelle l'EMI, l'éducation aux médias et à l'information.
Bon, évidemment, s'informer aujourd'hui, c'est pas pareil qu'il y a 20 ans. Aujourd'hui, avec Internet, c'est beaucoup moins difficile de trouver d'infos.
Les élèves connaissent les réseaux sociaux, ils connaissent TikTok, ils connaissent Instagram, YouTube, Google, mais ils ne connaissent pas les logiques économiques, par exemple, qu'il y a derrière. Et donc, mon métier consiste aussi à leur faire acquérir cette culture du numérique pour qu'ils aient quelques repères dans notre société.
En fait, la dame du CDI, c'est un peu une badass qui dégomme les fake news avec son poing armé, le savoir et ses muscles de fer, la patience.
À chaque fois qu'en France, on a un attentat dans lequel il y a eu, par exemple, des fausses informations qui ont circulé, je pense par exemple à l'assassinat de Samuel Paty, eh bien, on entend toujours des responsables politiques dire que cette éducation concernant les fausses informations est indispensable et qu'il faut qu'elle soit menée dans les établissements. Et nous, on est là, les professeurs documentalistes, pour faire ce travail, justement. On défend les valeurs de la République et les valeurs de la République, c'est également la lutte contre les stéréotypes et contre toutes les homophobies, transphobies, etc. Et dans ce cadre-là, on est amené à travailler sur les problématiques qui sont des problématiques du champ féministe. Donc, par exemple, on peut recevoir des expositions sur l'éducation des filles et des garçons. Enfin, dans mon CDI, j'ai des livres, notamment des romans, des BD, des mangas, et la plupart d'entre eux parlent des relations hétérosexuelles, hétéronormées. Et moi, j'essaye dans les achats de nouveaux livres, eh bien, d'introduire davantage de diversité là-dedans. Donc, des histoires d'amour homosexuel, des histoires de transition de genre, etc. Et je trouve ça particulièrement important que nous, on a des adolescents comme public, que c'est un âge où ces questions-là se posent. Les élèves doivent pouvoir voir des histoires qui leur parlent, qui parlent des questions qu'ils se posent, qui leur montre d'autres chemins que le chemin hétéronormé le plus courant.
Mais puisqu'on parle de tout ça, le CDI, c'est pas un peu the safe place to be?
Les élèves en questionnement sur leur identité de genre, sur leur orientation sexuelle, vont venir peut-être plus facilement que d'autres au CDI parce que, étant un peu isolés socialement, ils vont trouver ici un lieu refuge. Ouais.
Par contre, il n'y a pas de fin de contrat dans un CDI.
Quand on travaille au CDI, on n'est pas en CDI. On est titulaire de la fonction publique, donc on obtient un concours C'est à vie, hein. C'est un emploi qu'on a toute sa vie jusqu'à la retraite. On ne peut pas être licencié en tant que fonctionnaire. Par contre, si on veut quitter cet emploi, il y a deux solutions. Une solution définitive qui est la démission. Dans ce cas, si on veut revenir, eh bien, il faut repasser un concours. Ou alors on peut prendre une mise en disponibilité. Mais dans ce cas, quand on revient suite à une mise en disponibilité, on ne revient pas forcément sur le poste qu'on occupait auparavant. On peut être mis n'importe où dans le département ou dans l'académie, suivant les situations.
En France, on aime bien les acronymes, mais franchement, je trouve que CDI, pour un endroit qui est dépourvu des droits d'un CDI, c'est moche. Faudrait un nom qui évoque la poésie, l'aventure, le mystère, la connaissance. Qu'est-ce que t'en penses, Juliette ?
Je sais pas, moi. T'as des idées, toi ?
Ouais, je pensais à peut-être un imaginarium.
Non, ça va pas.
Un explorium.
Ah, carrément.
Allez, vendu ! Ah, c'est beaucoup mieux qu'un CDI, non ? Non ?
Merci, Domitille, pour de nous avoir plongé dans ton enfance et pour ce bel hommage au CDI. Je pense à faire écho à d'autres personnes. Bon, le CDI, c'est un lieu clairement qui est plus fréquenté par les filles. Est-ce que toi, tu t'en rendais compte quand tu étais petite de ça ?
Non, j'étais la tête dans mes bouquins. Je crois que je me rendais pas compte qu'il y avait pas beaucoup de garçons. Mais c'est vrai que maintenant que tu en parles, ouais, c'était surtout féminin, ouais.
Après, il y avait peut-être pas aussi beaucoup d'élèves qu'il fréquentait.
Il y avait pas beaucoup de monde. Non. C'était très mystérieux. C'était assez sombre. C'était pas très lumineux. Vraiment, ça
une grotte.
Un peu un endroit secret. Ouais, je trouve que ça me fait penser vraiment. Ouais, c'était l'armoire magique, le monde de Narnia. C'est voilà, tu passes entre des manteaux et puis oh, un endroit safe place quoi.
C'est ce que ça t'a procuré toi comme
à fond
comme endroit.
Ouais, vraiment, c'était vraiment mon refuge. Ouais, complètement.
Ok, et y a un truc que tu dis, c'est le silence, tu parles du silence, qui est quand même une vraie règle du CDI. Et en fait, moi j'ai lu un peu des études voilà, qui parlent de la fréquentation des CDI, etc. Et une des raisons pour lesquelles, en fait, a priori, c'est aussi plus fréquenté par des filles, c'est parce qu'il y a des règles très strictes, et notamment le silence, qui est beaucoup plus accepté a priori par les filles que par les garçons. Dans la construction. Et alors peut-être aussi parce qu'il y a un personnel féminin aussi, plus, je ne sais pas après si ça joue aussi. Et aussi parce que c'est un lieu, alors pour les filles, qui est considéré plus comme un lieu de révision et comme pour les garçons, comme un lieu de détente. Alors toi, tu le prenais quand même comme un lieu de détente.
Ouais. Oui. Bah, j'étais mauvaise de toute façon à l'école, donc à quoi ça sert ? Autant lire.
Ça t'a créé un imaginaire
À fond, ouais. Un grand imaginaire.
Mais en tout cas, je trouve que c'est intéressant de voir ce qui se joue déjà là, le truc de... Les filles, elles vont... En fait, c'est un peu ce que tu disais, Milou, dans... Tu sais, les filles, on leur apprend à être consciencieuses, à être rigoureuses, à voilà. Et donc, quand tu vas au CDI, bah, c'est pour... pour travailler, pour lire les ouvrages qu'on t'a dit, etc. Alors que les gars, ils vont plus aller lire des BD, des mangas et tout.
Le Guinness Book.
Ouais, qui était au CDI.
Ouais, nous c'était ça.
C'est le souvenir de CDI.
Ouais.
Et t'as jamais pensé à être prof documentaliste ?
Eh ben non, mais c'est parce que ma cousine, elle a fait prof doc et sur le coup, ça me donnait pas trop envie de suivre la même voie qu'elle. On a 10 ans de plus, on a 10 ans de différence et... On est assez proches et bon, moi, sur le coup, la voie qu'elle a empruntée, ça ne me donnait pas trop envie. Donc non. Maintenant, c'est vrai qu'être fonctionnaire, ça m'intéresse plus. Maintenant. Mais prof doc, ça veut dire quand même enseigner. Et c'est ça que je voulais aussi mettre en exergue dans cette petite cria, c'est qu'on a tendance à oublier que les dames du CDI, les profs doc, ils sont aussi des enseignants, mais ils sont sous-payés par rapport à tous les autres enseignants. C'est les grands oubliés des revalorisations salariales. Et en plus, on oublie complètement qu'ils ont un rôle hyper important dans l'éducation aux médias et la compréhension de la recherche de l'information aujourd'hui. Ce que disait Juliette dans la créa, c'est en fait, souvent on dit oui, mais les jeunes, ils ne savent pas aller chercher l'info. En fait, on enseigne ça au lycée et c'est complètement, ça passe sous silence. Enfin, vraiment, c'est...
On n'en parle que quand il y a des attentats, c'est ce qu'elle dit.
Ouais. Alors qu'il y a des super projets à faire en plus avec les profs documentalistes. Enfin, en plus, elles ont une espèce de liberté que les profs n'ont pas. Enfin, je pense que il y a un truc qui est sous-valorisé.
Ouais.
Alors que c'est un métier, ouais. Mais qui a peut-être changé aussi en. Enfin, quoi que Juliette, elle est encore enseignante là.
Ah oui, là.
Mais qui a dû changer aussi ces 20 dernières années. Enfin, nous, quand on était jeunes, enfin, moi, je pense qu'on ne nous apprenait pas à décrypter l'information au CDI, enfin, avec la dame du CDI.
Moi, non, okay. Mais peut-être t'apprenais d'autres choses. Parce que moi, j'ai travaillé en lycée et collège. Et c'est vrai que je trouve que de la part de l'équipe pédagogique, il y a aussi ce truc où leur rôle n'est pas du tout valorisé. Et parfois, à certains moments où les profs auraient pu faire appel justement à la dame du CDI pour faire des projets ou pour participer à leurs cours, c'est rarement le cas. Alors peut-être moins maintenant, mais peut-être qu'à ton époque, elle aurait pu être très utile, mais on les a pas forcément sollicitées sur un terrain où elles auraient pu agir, quoi.
Bah, ma cousine, on lui propose pas mal de projets. Après, bon, bah, à un moment donné, justement, elle s'alarme un petit peu de faire plein de choses pour finalement se faire couper le pass culture, par exemple, se faire couper les budgets sur un tas de choses et de se démener pour organiser des expositions ou des trucs temporaires à l'intérieur de son CDI et qu'au final, elle n'ait que la moitié des moyens financiers dont elle avait besoin. Il y a un peu un épuisement aussi à creuser sur ce sujet-là. C'est dommage parce que en vrai, on a plus que jamais besoin d'avoir cet apprentissage-là et ces regards-là pour notre jeunesse.
Bah, ça m'énerve. Puis en plus, il y a de la liberté pour les élèves. Enfin, comme tu disais, le rapport, il est vraiment différent.
Ouais.
Et moi, je me rappelle à mon collège, mais je pense que j'ai découvert le CDI assez tard. Il y a quoi ? Il y a 3 années, 4 années au collège ?
4.
Ouais. Je crois que je m'en suis vraiment rendu compte assez tard.
Parce que tu étais populaire.
Ah oui.
Non, même pas. Mais en fait, personne t'en parle. Tu vois, puis c'est vrai, tu as ce truc un peu mystérieux. Qu'est-ce que tu vas y faire ? Et j'ai découvert très tard que je pouvais y aller. Bah, tu sais, c'est comme certaines personnes aujourd'hui qui ne vont pas aller, je sais pas, au théâtre ou aller à la bibliothèque parce qu'on ne les a jamais invités à y aller. Donc, ils ne savent même pas vraiment que tu peux faire le chemin, quoi. Mmh. Et il y avait vraiment ça. Parce qu'en fait, on...
Mais ouais, d'ailleurs, il y a un truc, c'est que la lecture, elle n'est pas valorisée, en fait. En fait, c'est la honte de lire. Ouais. Ça, c'est fou, quand même, dans la construction, de se dire que... Enfin, dans les pères d'élèves, quoi. Enfin, c'est...
La curiosité, en fait, parce que du coup, ça ouvre la curiosité de l'élève et pas le professeur qui va donner l'information. Là, c'est l'élève qui va venir chercher son info. Et en fait, il n'y a pas de soutien à ça. Enfin, en tout cas, à l'époque, je ne sais pas aujourd'hui, ouais.
Je ne sais pas non plus.
Ouais.
Ça reste quand même... Ouais. Je pense qu'il y a quand même toujours ce que tu as vécu, à mon avis, c'est encore vécu aujourd'hui.
Oui.
Ouais. Moi, j'ai un enfant.
On n'est pas allé beaucoup aux CDI, nous.
Ouais. Moi, j'ai un enfant qui est en 5e et il y passe pas mal de temps. Il est assez content d'avoir des heures de perm pour aller lire. Mais c'est vrai qu'il aime beaucoup lire. Mais là, il s'est tourné vers les BD parce que justement, le collège impose la lecture de romans. Et autant il en lisait, finalement, c'est assez fun. Il lisait des romans pour enfants à l'école primaire. Et là, depuis qu'il y a des romans imposés dans l'apprentissage en français, il ne veut plus en lire pour son pif parce que c'est assimilé à du travail.
Oui.
Donc, la détente, c'est des BD. Et donc, il lit des BD ou des romans graphiques, mais terminé la littérature jeunesse pour l'instant, quoi.
Non, c'est là où il y a quand même un échec quelque part, quand même, hein, dans l'enseignement, je veux dire.
Bah ouais.
C'est un gros lecteur, les vieilles daronnes.
Sur cette note positive que nous allons terminer l'émission.
Bah oui,
l'éducation de nos jours.
Non, mais ça fait très longtemps. C'est pas. Enfin, justement, c'est depuis toujours, en fait, que le.
Bah, la lecture est souvent assimilée à taf rébarbatif, quand même, beaucoup de jeunes, quoi.
Oui, et c'est vraiment dommage. Ouais.
Ouais, la lecture, enfin, le plaisir associé à la lecture, justement, à ce que tu disais, l'imaginarium, enfin, non, l'exploratorium, etc., les imaginaires que ça peut développer, enfin, c'est ça qu'on vend pas bien, quoi, quand même.
Tout à fait. Et donc, c'est déjà la fin de l'émission. Merci Domitille, en tout cas. Est-ce que vous avez peut-être une actu? Est-ce que si vous avez une actu à nous partager, vous avez 20 secondes chacune pour nous donner envie d'aller à votre événement?
Cacophonie, parler de la cacophonie.
Ah oui, bien sûr, Domitille, parce que toi aussi tu es une femme de radio.
Oui. Eh bien, la cacophonie que je co-présente avec Solène, qui est avec nous dans cette émission. La cacophonie, là, on a terminé une super belle émission sur le caca des animaux, qu'on vous invite à aller découvrir sur le site internet de Prune, puisque nous sommes dans la... Je ne vais pas dire la concurrence, mais en tout cas, on est dans une autre radio associative avec Solène. Et la prochaine émission, ça sera sur la religion.
Et le caca.
Caca et religion.
Caca et religion.
Bien sûr.
Oh là là.
Ouais, alors c'est quand
la connexion spirituelle entre le cul posé sur le trône et Dieu.
Waouh, ouais. Wow, merveilleux.
Trop bien, ça donne hyper envie.
Et c'est quand c'est le 22 juin prochain.
Cool, on écoutera ça. Cacophonie sur Prune.
À 18h.
Sur moi,
ouais, sur Prune.
Ouais. Jomar la discrétion, c'est moi-même. C'est abusé, je fais de l'autopromo. En concert demain, non, franchement, il y a un festival Anticra qui va se dérouler, qui est organisé par Nantes Colère. Colère Nantes, je ne sais plus dans quelle langue ça se dit, et qui aura lieu aux ateliers Beach toute la journée. Il y aura plein d'ateliers toute la journée, donc n'hésitez pas à venir. Rassemblons-nous contre l'ouverture de ce centre de rétention à Nantes. Mmh. Et donc, il y aura des concerts de Nouge, de moi-même, de Le Mago et d'Algar. Voilà, et je serai aussi en concert le 30 avril à Lubic, mais bon, voilà.
Ce sera l'objet d'une autre émission, une autre actu.
Je ferai des émissions sur moi-même.
Mais non, c'est toujours cette émission-là, donc dis-le. C'est
30 avril oui, à Lubic, Nantes All Star, off Deep Hop Session, il y aura plein d'autres rappeureuses, ça va être top.
Trop bien, et nous on se quitte avec un morceau que tu as choisi, Domitil.
Ouais, Virginia Woolf de Chauffe-eau Blaster, du gros Boom Boom, qui parle de l'amour d'une autrice féministe. Très apprécié de Chauffe-eau Blaster.
Et c'est complètement local.
Et c'est complètement local, c'est Nantais, Montreuillois Nantais.
Quand je te lis, j'ai des orgasmes intellectuels. Tu cries, c'est la bombe à outrage culturel. Tu me décongèles le cerveau. J'ai atteint 39 degrés Celsius. Je veux me vêtir de ta peau pour voir le monde actuel. Je veux faire partie de ton cheptel. Je transpire des phrases que je t'ai chopées. J'en ai mouillé mon becherel. J'en ai mouillé mon becherel. Les doigts, je me masse et puis j'aboie. J'ai trop hurlé en glissant. T'es torride, t'es au courant. Une rhétorique rentre dedans. Virginia Woolf, je t'ai lu car j'avais ma chambre à moi pour te dévorer sans fin. Tu m'as touché, tu as assouvi ma faim. Je suis touché, tes pensées ont fait ma fête. Une cascade, une comète. Quand je t'évoque, je halète. Mon abjuration, je te dédie tous mes péchés. Avec toi, je suis entrée dans une autre religion. Tu es la marée montante qui déferle maintenant. Au nom du phare, des vagues et du Saint-Plaisir, Virginia, que ta volonté soit faite sur la terre comme au pieu.